Lise Parézo, artiste à double tranchant.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
En sol majeur risque de vous jeter un sort aujourd'hui. Ça va se passer en extérieur, du côté de la grande halle de la Villette, à Paname. À cause ou grâce à Lise Parézo, la trentaine lumineuse, à l'intersection de plusieurs identités, avec un accent brésilien à couper au couteau. D'ailleurs, le tranchant est son domaine. Voilà une sculptrice formée entre Rio de Janeiro et les Beaux-Arts de Paris, qui conçoit des performances dérangeantes aux yeux des institutions, mais aussi du public, en prenant appui sur son expérience d'artiste transgenre. Ou comment catalyser un corps dissident et racialisé à travers des pièces d'aluminium découpées au laser ou des constellations de scie argentée. Soyez effrayés, sa vie libérée dans une société normée est effrayante. Armée d'un Paul B. Preciado, côté philo, et d'une Ligia Clark, côté thérapeutique, nous lui avons tendu nos micros au moment de son installation Tempête Magique qu'elle présentait récemment dans le cadre de 100% l'Expo sur le pavis de la Grande Halle de la Villette. Et comme toujours, ça commence en sol majeur.
Tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu. Me falou que o mal é bom e o bem cruel. Os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu. Ela me conta sem certeza tudo que viveu. Que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Days. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão e a tigresa possa mais do que o leão.
Bonjour Lise Parézo.
Bonjour.
Sympa de vous accueillir avec Gal Costa sur RFI et ce morceau Tigresa. Et vous avez un sourire magnifique en écoutant ça. Et vous me disiez en l'écoutant ce morceau, c'est moi.
Oui.
Pourquoi vous dites ça?
parce que cette chanson parle beaucoup, je pense, un peu de ma personnalité, la couleur de ma peau, mes os, parce que c'est une description d'Antigresse.
C'est une description?
Oui, oui, un peu. Et à un moment de la musique, il dit qu'elle a plus de pouvoir que les lions. Et voilà, pour moi, c'est un peu féministe ici de dire ça.
D'accord. Alors avant, on est à la Villette, mais avant d'arpenter votre tempête magique, c'est-à-dire votre installation, l'Isparaiso, on va s'installer avec notre boîte à outils en sol majeur, notre chapeau de questions et notre abécédaire.
M comme métamorphose.
Alors, puisqu'on est à la radio, et justement, vous parliez de cette chanson de Gal Costa qui semble vous décrire, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas dans le monde, s'il fallait donner une image de vous, l'Isparaiso, comment vous vous décririez physiquement ?
Physiquement, je suis enfin un peu bronzé parce que je suis né à Rio. Il m'appelle, c'est comme de l'or.
Vous avez la peau mordorée.
Oui, voilà, c'est ça. Mes cheveux sont des boucles. Boucles, non, c'est
très long, oui, oui, très oui. Bouclés.
Et mes yeux sont marrons. En portugais, c'est marron. Je ne sais pas comment tu peux faire la description de mes yeux. Toi qui me regardes maintenant.
Oui, oui, c'est ça. Est-ce que vous trouvez que vous ressemblez à une tigresse?
Oui. Je pense que j'ai besoin de la force de la tigresse pour vivre.
Alors avant de rentrer dans votre travail d'artiste, il faut pousser un peu la porte d'une réflexion autour de la binarité. Je sais que vous êtes une lectrice de Paul B. Preciado, qui est un philosophe trans, non-binaire, qui a fait de son corps un laboratoire politique. Il l'a transformé en prenant de la testostérone. Et selon lui, il explique que notre monde est traversé par une mutation profonde et que cette mutation, elle a commencé il y a longtemps, en fait, fin des années 50, avec le mouvement des décolonisations, les mouvements féministes, les mouvements homosexuels, les mouvements autour des malades mentaux, etc., jusqu'à questionner aujourd'hui la binarité. Justement, pourquoi est-ce que cette question, et on va la lui poser, cette question de la binarité du sexe et du genre est au centre du processus de mutation ?
Elle est au centre parce que sans cette binarité de sexe et de genre, on ne pourrait même pas penser, par exemple, à la différence entre hétérosexualité et homosexualité. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a été concentré sur la question de défendre les droits des homosexuels face aux droits des hétérosexuels. Mais il y avait quelque chose, une épistémologie, donc une représentation du monde qui était même à la base de ça, qui était la différence même entre la masculinité et la féminité. Mmh. On sait aujourd'hui, il y a un grand débat scientifique. Ce n'est pas une question uniquement politique, c'est aussi une question fortement scientifique. Que la différence sexuelle telle qu'on la connaît dans la modernité, c'est-à-dire la différence pensée comme une différence anatomique entre par exemple les pénis et les vagins, mais aussi entre les organes reproducteurs, en fait est une différence qui a été construite par les discours scientifiques et anatomiques de la modernité. Mmh. Cette différence est en train d'échanger. Peut-être en fait qu'il y aura dans une nouvelle épistémologie plus des deux sexes ou plus des deux genres, ou peut-être en fait, et c'est mon souhait, peut-être on va arrêter de penser la citoyenneté, de penser les conditions d'accès à la vie politique en fait en référence uniquement à la capacité reproductrice d'un corps, c'est-à-dire en fait à le fait que ces corps possèdent ou pas par exemple la production des spermatozoïdes ou la production d'ovules. C'est ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui.
La voix de Paul B. Preciado au micro de France Inter dans votre en sol majeur, l'Isparaiso. Pourquoi est-ce que vous aimez la pensée de Paul B. Preciado?
Parce que quand j'ai lu le manifeste contre-sexuel, j'ai trouvé quelques références de ma performativité comme une personne trans. Je suis né en famille, en banlieue, à périphérie de Rio, super chrétienne, évangéliste, qui a toujours opprimé ma performativité féminine. J'ai commencé tout de là et rencontré la première fois un groupe queer et trouver ce livre, j'ai trouvé quelques références et j'ai vu que je suis une personne normale, que ma performativité, que ce n'est pas binaire, c'est possible. C'est quelque chose qui parle avec mon corps, avec ma performativité.
Qu'est-ce que vous appelez votre performativité?
Oui, parce que Popper Seado dit que les gens, ce n'est pas une chose biologique, mais c'est une performance, tu vois. Avant de naître, il y a déjà une définition des gens à partir de la répétition. Par exemple, le docteur qui va voir le sexe, la autosographie, il va dire « Ah, c'est un homme, c'est une femme ». Ou même les toilettes, que c'est pour homme ou pour femme, tu vois. Et je me parle maintenant. Il y a un moment que j'ai compris que ce n'est pas mon sexe qui définit mon genre, mais c'est ma performativité sociale que j'ai construite comme lisse, par exemple, comme ma personne, c'est oui. Ça.
Alors, ce que j'ai trouvé intéressant chez Paul B. Preciado, c'est que lui, bon, sur ses papiers d'identité, maintenant, il est genré homme.
Oui.
Il se présente comme un homme. Mais lui, il ne se reconnaît ni homme, ni femme. Il dit, et j'aime beaucoup cette expression, être une fiction politique. Est-ce que vous diriez ça, vous aussi ?
Une fiction politique performative. Parce que tout ça, c'est une performance sociale. Même avant un document, il demandait une définition masculin, féminin.
Donc, pour vous, vous n'êtes pas comme Paul B. Preciado. Lui, il dit qu'il a fait de son corps un laboratoire politique.
Oui.
Vous, vous diriez que vous faites de votre corps un laboratoire artistique, esthétique ?
Je pense que ça était super important pour moi, cet laboratoire artistique, pour faire mon travail, après qui je suis. Mais ouais, tous les corps sont politiques, tu vois. Il n'y a pas une exception, même une personne cisgenre, une femme cisgenre, il y a un corps politique dans cette société patriarcale, hétéronormative.
Donc, en tant que personne trans, vous parleriez pour vous-même d'une mutation, d'une métamorphose ? Qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce que vous choisiriez comme mot ?
En réalité, je pense que j'ai déjà un enfant trans, mais à un moment de ma vie, je me rends compte que je suis une femme, tu vois. La société, il y a beaucoup de choses.
C'est-à-dire que vous êtes né pour la société
comme un homme,
oui. Et à un moment donné de votre vie, vous vous êtes rendu compte que vous étiez plutôt une femme.
Oui, à un moment, j'ai pensé que je suis une personne non-binaire, à un moment, j'ai pensé que je suis un homme gay. Mais maintenant, je sais que je suis une femme. Je ne me connecte pas avec la performance d'un homme dans la société. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas performer ça. Je ne veux pas ça dans mon corps.
Ouais, le patriarcat.
Oui, voilà. Je n'ai pas choisi ça. Ça s'est passé normalement, tu vois. Moi, à 15 ans, j'ai déjà commencé à m'habiller avec les vêtements des femmes. Et c'est une chose naturelle. Ce n'est pas moi qui choisis ça parce que c'est plus facile d'être un homme cis dans cette société.
Oui, bien sûr.
Et voilà.
C'était comment de grandir ? Là, on est en train d'entendre les cigales, peut-être, de Rio de Janeiro. Vous avez grandi pas loin, à Campo Grande. C'était comment de grandir là-bas dans les années 2000 ?
C'était super dur et violent parce que ma famille m'obligeait à aller à l'église jusqu'à 18 ans. Et les pasteurs, les chefs évangélistes disent que j'ai un démon dans mon corps. Il commençait tout un processus de...
L'exorcisme.
Exorcisme, ça c'est bizarre. Ma famille m'a bloqué d'avoir des amis queer ou gay ou même femmes, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'après j'ai explosé avec mon travail artistique parce que quand j'ai trouvé ma communauté, quand j'ai trouvé des gens comme moi, que ça c'est possible, j'ai commencé à faire self-défense.
Oui.
Mais voilà, mais c'était super dur. À un moment que j'ai déménagé à São Paulo seul pour faire une résidence artistique parce que je n'ai pas supporté plus Friv à côté de ma famille qui m'a démonisé aussi, qui m'a jugé. Parce que, je ne sais pas si tu sais, mais le Brésil, c'est le pays qui touille des gens trans, ça va faire 15 ans. Et cette population, il n'y a pas d'option. Et c'est pour ça que 90% est dans la prostitution. Ma mère ne m'acceptait pas. C'est ma grand-mère qui dit non. Lise va rester avec moi. Et c'est pour ça que j'ai continué mes études. Et c'est pour ça que je suis là maintenant. Parce que sinon, je suis plus un des statistiques qui s'est super marginalisé en Brésil maintenant.
Oui, vous auriez pu finir dans la prostitution.
Oui, c'est ça.
Obrigado, meu Deus, e obrigado, povo brasileiro. pela glória que vocês me deram de vencer essas eleições. E por isso eu não posso faltar. E eu sei que eu vou contar com vocês, porque somente com a participação de vocês é que eu tenho certeza que nós vamos cumprir todas as tarefas que nós assumimos com vocês. Eu acho que o povo já chega de sofrer.
Un certain Luiz Inácio Lula da Silva, réélu en 2022 à la tête du Brésil avec 50,9% des voix et qui là remercie le peuple brésilien. Il est ému aux larmes. Mais en fait, c'est pour rebondir sur sa première élection, Luiz Parejo, à la tête du Parti des Travailleurs en 2003. C'est une élection qui vous a marqué, qui était, j'imagine, porteuse d'espoir pour vous.
Oui, je pense que le gouvernement Lula a marqué plus ma vie que l'élection. Parce que, par exemple, j'ai fait partie d'une génération qui est la première qui est entrée dans l'université. Avant Lula, l'université publique, c'est pour les riches, aux médianes classes en Brésil. Et moi, par exemple, c'est la première personne de ma famille qui est arrivée dans les études supérieures. Et ça a marqué beaucoup parce que ma éducation se passait pour ça.
Est-ce que son élection a changé quelque chose pour vous en particulier, Lise, et plus généralement pour les personnes LGBT, trans, homosexuelles du Brésil?
Je ne sais pas, parce que à ce moment, je suis super jeune, je suis un enfant. Mais maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que je parle avec les trans anciens qui parlent du Brésil des années 80, par exemple. De la population trans, parce que si tu es trans dans la rue, la police va te chercher et tu vas aller à prison, tu vois. Il y a tout un projet de société de marginaliser cette population. Et je pense que Lula s'est super engagé avec la culture, avec les droits humains et tout ça. Oui.
Est-ce que c'est possible au Brésil de faire une transition de genre, de se faire opérer, par exemple?
Oui, aujourd'hui, pour faire la transition hormonale, c'est gratuit. Et maintenant aussi, si tu veux faire la chirurgie de résignation sexuelle, je pense que si tu es en sécurité sociale privée, c'est possible, mais c'est un processus juridique un peu compliqué, mais c'est possible.
On a bien compris que votre situation de personne trans était compliquée dans ce Brésil, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour vous décidez de le quitter définitivement pour venir en France?
Oui, avant l'élection de Bolsonaro, il y a des gens qui font des signaux pour moi dans la rue.
Vous avez été menacé?
Oui, parce que si Bolsonaro a gagné, qu'est-ce qui va se passer avec moi, tu vois? Il y a un moment, j'ai coupé tous mes cheveux parce que je ne peux pas voir ma féminité dans la rue parce que j'ai commencé à être super agressé et menacé, tu vois? Et ça a commencé insupportable. Et à l'époque, j'ai découvert un échange de Parc Lage et Beaux-Arts de Paris et j'ai fait mon plan de sorti de Paris.
Alors, pour un sol majeur dans cette grande halle de la Villette près de Paris, on va écouter une voix majeure pour vous, Luiz Parejo. C'est celle de l'artiste Ligia Clark, qui, à l'image, là, dans ce documentaire que j'ai trouvé, elle a dans ses mains un objet. On ne sait pas exactement si c'est un coussin, un peu liquide, on ne sait pas très bien. Elle est en train de le manipuler. Vous allez nous traduire ses propos.
Jay.
J comme... Je me souviens.
Isso eu chamo de objeto relacional, porque na realidade ele não tem uma relação, ele só tem relação com o sujeito. De per si, ele não tem qualidade nenhuma. Então as pessoas pegam e ou passam no corpo, como eu estou passando no meu braço, ou eu passo no corpo das pessoas. Esse é um objeto relacional leve.
Traduction alors des propos de Ligia Clark, Luiz Parejo.
En réalité, Ligia Clark, au moment de son travail, elle a commencé à travailler avec des objets ordinaires comme des objets thérapeutiques.
Et des objets, pardon?
Thérapeutiques.
Thérapeutiques.
Oui, elle a fait une psychanalyse corporelle qui utilise des objets pour stimuler les patients à parler. Et elle a commencé à créer le travail d'art avec ça. Et elle a appelé ça des objets relationnels parce que...
Des objets relationnels.
Oui, parce que c'est la relation avec les objets qui va toucher ta subjectivité.
C'est ça, c'est-à-dire qu'elle fait travailler le patient sur une problématique personnel, une névrose, un traumatisme, avec la sensation à travers un objet.
Oui, c'est ça.
C'est à peu près ça. Alors, je vous ai offert cette archive car, dans le cadre de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, vous avez fait un mémoire épistolaire qui est assez incroyable à lire. Hein. C'est un objet en soi qui pourrait être exposé même. L'Isparezo, il est intitulé « Thérapie narrative, lettre à Lydia Clark ». Qu'est-ce que c'est qu'une thérapie narrative ?
Parce que cette mémoire, pour moi, il était une thérapie.
Pourquoi ? Mais pourquoi c'est une thérapie pour parler avec elle ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette artiste, pour vous ?
Parce que j'ai commencé à chercher les travaux de thérapie de Lydia, c'est une chose un peu artistique, un peu thérapeutique. Et j'ai entendu que mon travail, les sculptures, c'est une forme que j'ai trouvée de redistribuer la violence que mon corps elle souffre tous les jours. Et je parle justement sur ça avec Lydia.
Enfin, quand vous dites que vous parlez avec Lydia, c'est par procuration, enfin, à travers des lettres, parce qu'elle n'est plus de ce monde.
Oui.
Elle est décédée, oui.
J'ai trouvé dans les cadernes intimes de Lydia une lettre qu'elle a faite aussi à Mondrian. Il est déjà décédé.
Oui.
Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette mémoire. J'ai décidé de venir en France aussi parce que j'ai lu un livre qui c'est des lettres d'elle avec Helsika. Et j'ai pensé pourquoi pas Paris.
Et... Mais parce qu'elle-même est venue à Paris.
Oui. Elle est venue à Paris en 1964 pour questions politiques, commencer la dictature militaire en Brésil. Et voilà.
Et alors, son œuvre est tellement importante pour vous, Lise, que vous l'avez tatouée sur votre corps.
Ah oui, comme ça va ça.
On peut voir ? Est-ce
oui,
qu'on peut voir ? Ah, alors, est-ce que vous pouvez nous décrire ce tatouage sur votre bras ?
C'est une image de Lydia elle-même. Et elle a mis des deux mains sur la tête.
Alors, ça fait référence à une œuvre, Pensamento Mundo, c'est-à-dire Je pense le monde.
Oui, c'est ça.
Alors, j'ai vu une photo où on voit effectivement, je ne sais pas si c'est elle physiquement, c'est un visage très rapproché, une photographie très rapprochée en noir et blanc d'une tête de femme qui se prend la tête entre les mains.
Oui.
Et qu'est-ce qu'il y a de si important pour vous dans cette œuvre ?
Pour moi, cette œuvre, c'est juste un portrait. Parce que c'est une personne qui m'a enseigné que l'expérience est plus importante que l'objet. Et je pense que ça, c'est sa contribution de Lydia pour les projets constructivistes ou participatifs à Paris. Et ça, c'est une chose qui a vraiment changé mon parcours artistique et même ma façon de voir mon travail et voir la vie. Parce que toujours, elle a mixé l'art et la vie.
Et c'est ce que vous avez fait. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir pour en sol majeur un court extrait d'une des lettres de Lydia ? Et un court extrait d'une de vos réponses à Lydia.
Oui, bien sûr.
Ma très chère, je dois écrire serré et sur les deux côtés de la feuille, car envoyer du courrier au Brésil par avion est très cher. J'ai vu hier l'exposition d'une femme argentine qui m'a beaucoup rappelé nos discussions sur ce genre d'art. Elle fabrique des matelas rayés, cousus les uns aux autres, pour obtenir différents volumes, suspendus dans l'espace ou au mur. Aucune critique, non méritant. J'ai vu une galerie d'art entière basée sur cela. Accrochés un peu partout, ils me font penser à de l'art populaire ou à des bibelots muraux. Si grossières parfois, que même le problème de l'art et du folklore, communication, vient immédiatement à l'esprit.
Querida Lydia, a gente se encontra em vários momentos e é uma loucura isso para mim. Confesso que a primeira vez que te vi, tive uma crise de risos. Chère Lydia, nous nous rencontrons à différents moments. Ce qui me semble fou. J'avoue que la première fois que je t'ai vu, j'ai un fou de rire. Foi em uma das minhas primeiras aulas de História da Arte na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Rio de Janeiro, em 2013. C'était dans le mes premiers cours d'histoire de l'art à l'École d'art visuel du Parque Lage, à Rio de Janeiro, em 2013. Você, de branco e muito elegante, manipulava vários materiais do cotidiano, como estopas, conchas, pedras e sacos plásticos. Toi, en blanc, très élégant, manipulais divers matériaux du quotidien, tels que des serviettes, des coquillages, des pierres e de saque en plastique. Um cheio de ar, outro cheio de água. E depois os organizava sobre o corpo de um homem, vestido com uma tanga. Certains remplis d'air et d'autres d'eau. Puis les disposèrent sur le corps d'un homme portant un string. Após essa minha reação, me retirei do auditório. Todo o restante dos alunos começou a me olhar e senti um mix de euforia e de vergonha na carne. Tous les autres élèves ont commencé à me regarder et j'ai ressenti dans ma chair un mélange d'euphorie et de honte.
La belle langue de Lise Parrezo dans cet en sol majeur. Alors, est-ce que la thérapie, en écrivant à Ligia, qui n'est plus de ce monde, est-ce que la thérapie a marché sur vous?
Oui, bien sûr. Pour moi, Ligia Clark, elle était un sorcier latino-américain à Paris, les années 60, qui beaucoup m'enseignait pour penser mon corps ici aussi, pour penser mon travail ici, parce que comme je suis née pas française, comme c'est un couteau différent, et avoir toutes les difficultés qu'elle a trouvées aussi pour être comprise avec ce travail qui, à un moment, c'est pas l'art, c'est pas thérapie, c'est quoi?
Et justement, il y a un dialogue entre votre travail et son travail. Vous avez signé une série, alors c'est vous qui allez rigoler de mon accent.
Non, je vais rigoler.
Portugais, si. Bichinhas.
Bichinhas. Oui.
Qui a fait directement référence à la série de Ligia Clark, Bichos.
Oui.
Voilà, qui veut dire
Bête.
Bête ou bien?
Comme animal.
Alors racontez-nous.
Oui, j'ai commencé cette série à partir d'un bague.
Une bague, oui.
Parce que mon grand-père fait des bijoux.
Il était bijoutier, votre grand-père. Hein?
Oui, et quand j'ai commencé à faire la sculpture, j'ai fait des bijoux de self-défense avec des formes géométriques. Et les premiers, j'ai fait un bague en hommage à Ligia. J'appelais à Bichinhas. Et à un moment, j'ai me donné un défi de refaire ce travail qui s'appelle Bichos. En français, je peux dire bête, comme un animal, qui sont des plaques de métal géométriques qui se rencontrent avec des charnières. Et quand tu touches, cette sculpture parle avec toi. Parce que comme elle est de charnière, il y a un mouvement. Ela responde avec un mouvement, comme toutes les plaques sont connectées. Et j'ai pensé, comment faire une relecture ou parler avec ce travail d'art des années 60? Moi, qui né en 1990, que je suis racialisé, que je suis trans, nouvelle génération, et j'ai mis un peu de violence. Alors j'ai fait une sculpture qui c'est en alumine aussi, c'est géométrique, mais pour couper toi quand tu touches.
Oui, c'est ça. Vous faites ressentir au public la oui. violence que vous vivez, vous, en tant que femme trans.
Oui, justement. Il y a aussi un jeu de mots, parce que bichos, c'est comme animal, et bichinha, en portugais, à la traduction littérale, c'est petit pédé. Et ça, c'est une chose utilisée en Brésil comme une chose péjorative. Et j'ai ressignifié ça pour faire une sculpture qui est une chose coupante, qui donne une puissance.
Oui. Donc vous faites des boucliers, vous faites des armures, vous faites des oui. installations toujours tranchantes. Et vous utilisez beaucoup le métal, dont vous dites que ça a une dimension thérapeutique pour vous. Pourquoi le métal a cette vertu, Lise Parrezo?
Je viens d'une famille d'artisans. Je suis la troisième génération qui travaille avec le métal. Le métal est une chose dynamique pour moi. Je dois compter une histoire pour mieux faire...
Comprendre.
Toujours, les télés de métal, c'est super macho, super violent. Et quand j'ai commencé à travailler dans cet espace, j'ai commencé à faire des choses coupant, des boucliers, justement pour répondre à cette violence que je suis vivrais dans les télés de métal. Alors, à São Paulo, quand j'ai commencé à faire, les techniciens me détestaient parce que comme une fille trans qui fait des métals, qu'est-ce qu'elle a fait ici? Même à l'école des beaux-arts, j'ai beaucoup souffert. Je suis bloqué parce que tu ne vas pas l'atelier des métals parce que tu as un comportement de petite fille.
Oui, c'est typique du système patriarcal. Tu ne vas pas travailler le métal, toi, la petite
oui.
fille. C'est ça qu'on vous
oui.
disait.
Mm-hmm. Et j'ai transfiguré cette violence dans la sculpture. Et ça, c'est ma dimension thérapeutique. Comment transformer cette expérience dans un objet pour créer un débat public sur cette question? Pourquoi cet artiste doit faire un bouclier? Pourquoi doit faire une armure? Parce que le monde d'art E os ateliês de metal são super hostis para um corpo feminino e plus para um corpo trans.
Est-ce que vous pensez être plutôt une artiste ou plutôt une chercheuse?
Plutôt une artiste.
Mais vous avez souri sur le mot chercheuse.
Mais je pense que je suis une chercheuse non officielle.
Et pourquoi vous êtes dans l'art?
Ça, c'est une bonne question. C'est justement parce que le monde d'art, j'ai trouvé des gens, je ne sais pas.
Parce que ce n'est pas la norme, parce que c'est autorisé de ne pas être dans la norme.
Et c'est dans l'art que j'ai trouvé une place pour exprimer moi, et mon art, et mon corps, et ma performativité.
Ce sera le mot-clé, hashtag performativité. Oui. C'est l'heure en sol majeur de la sculptrice française, une certaine Anne Rochette.
L'œuvre, enfin la sculpture, la chose, la matière, elle s'organise autour d'un vide intérieur. Toujours. Et à la limite, quand ça m'arrive, rarement, mais ça m'arrive, de faire des œuvres qui sont pleines, là, je cherche le sentiment d'une paroi qui se tient en équilibre entre une poussée interne et une poussée externe. Et je pense que c'est sans doute ce qui nous définit en tant qu'être humain. Enfin, on existe dans ce... dans cette tension entre l'extérieur et notre petit ou grand intérieur, et notre sentiment d'être au monde, il est toujours coincé entre notre sensation d'être quelque chose de séparé du monde et ce sentiment que le monde est sans arrêt en train de nous former, de nous déformer, de rentrer, de sortir, de chercher à nous détruire ou à nous construire. Et le rapport que j'ai aux formes, il tient de ça. Je fais des choses qui sont en général single, j'ai presque envie de dire célibataire, même si elles sont formées de plusieurs éléments, ou même si dans ces pièces-là, c'est des couples, mais l'ensemble, quelque part, il est célibataire, il est pas raccordé à d'autres accessoires ou à d'autres... il a une forme d'autonomie ou de solitude, on va dire, qui, pour moi, est un peu équivalente à la nôtre en tant qu'individu dans le monde.
L'œuvre s'organise toujours autour d'un vide intérieur, c'est ce que dit Anne Rochette, ici dans cette grande halle de la Villette, près de Paris, avec vous, Lise Parézo, vous qui avez travaillé une installation cuir mouvement avec Anne Rochette. Oui. Quelle est son importance dans votre travail ?
Je pense que c'est super important pour moi et pour mon travail. Et j'ai découvert justement à partir des techniciens d'École des Beaux-Arts qui a détesté. Et c'est un atelier constitué majoritairement pour des femmes et des gens queer. Et ça, c'est la première chose qui me fait à la chercher. Et elle m'a dit une phrase qui est beaucoup marquée. Chaque œuvre, il y a un corps. Et une autre chose qu'elle m'a dit aussi, parce qu'en Beaux-Arts, j'ai montré aussi un bouclier de 2 mètres. Et Anne Rochette m'a dit, ça peut me tuer.
Ça, ce bouclier, votre installation, donc, peut me tuer.
Alors, tu dois faire.
C'était l'autorisation.
Oui.
Vous êtes toujours étudiante à l'École des Beaux-Arts de Paris, Lise Parézo?
Non, j'ai fini mes études en 2022.
Est-ce que vous avez été dérangeante dans cette institution en tant que sculptrice et femme trans? Parce que là, vous êtes, on appelle ça le cheval de Troie. Vous interrogez les codes, etc., en étant au sein, à l'intérieur de l'institution. Est-ce que vous dérangiez l'institution?
Oui, je pense que peut-être je suis la première femme trans brésilienne qui fait Beaux-Arts et mon corps peut-être jamais existé là. Et bien sûr que j'ai dérangé l'institution. Mais en même temps, j'ai trouvé beaucoup de gens sensibles qui m'aidaient dans ce parcours. Mon corps, il est violent pour des gens ignorants, je ne sais pas.
Des gens ignorants.
Ouais. Ignorants.
Que représente Paris pour vous, alors?
Je pense que Paris, c'est mon refuge. C'est ici que j'ai trouvé une place pour faire ma transition des gens. C'est ici que j'ai trouvé une place pour faire mon travail. Et c'est un lien aussi que je peux oublier que je suis trans. En Brésil, c'est un peu difficile.
Alors, on va s'offrir pour en sol majeur, chère Lise Parézo, un petit moment salle obscure. Un petit moment Almodovar.
Qué tonta soy. Te iba a decir hasta ahora mismo. Sí, 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 es mucho mejor que seas tú quien cuelgue. Sí. Sí, adiós, vida mía. Shh. Voy a tener mucho ánimo. ¡Que sí! Pero ahora date prisa y cuelga, por favor. Cuelga, por favor. ¡Cuelga! Quiero más que a mi vida. Más que a mi vida. Más que a mi vida. Más que a mi vida.
Ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus parler. Je me cacherai là. Et danser et sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien.
M comme.
Ne me quitte pas.
Miroir.
Ne me quitte pas.
Miroir.
Ne me quitte pas.
Que vous évoque cet extrait de La loi du désir, que je vais vous laisser traduire en portugais.
La loi du désir.
Voilà, de Pedro Almodovar. Il est important ce film pour vous, Lise Parezo.
Oui, Almodovar et sa production de cinéma étaient super importants pour moi parce que j'ai trouvé des gens queer, des femmes trans, dans les films avant de les rencontrer dans la vie. Et ah. C'est ma première référence que ce corps existe. Et que ça, c'est possible. Et c'est pour ça que ce film m'a beaucoup marqué. Parce que c'est un homme qui, après, revient comme une femme. Et c'est peut-être mon premier imaginaire de cette possibilité.
Identification possible.
Oui.
Parmi vos influences nombreuses, je crois qu'on ne peut pas passer sous silence le travail de Louise Bourgeois.
Oui.
Grande plasticienne française qui s'est exilée aux États-Unis dans les années...
80.
80, voilà. On va écouter un court extrait d'un documentaire où elle est apparemment en quête de sa maison familiale.
Tangerine ?
Je crois pas, non.
C'était une jeunesse très pénible d'un autre point de vue. C'est-à-dire que au sein de la famille, il y avait comme un virus qui était traumatique pour nous, pas seulement pour moi, mais pour mon frère et ma sœur. C'est-à-dire que nous souffrions d'une fissure dans la cellule familiale. Et cette fissure représentait, c'est bien français, était représentée par le fait que mon père introduisait des maîtresses. Ça, c'est son affaire. Mais je ne le juge pas. Mais il introduisait des maîtresses dans la maison. Et c'est là que le trauma a eu lieu.
Et donc la guillotine, elle est là aussi pour mentionner cet aspect aussi.
Oui, pour mentionner que les gens se guillotinent à l'intérieur d'une famille, que la cruauté n'a pas lieu simplement du point de vue du passé qui est guillotiné par le présent, mais que la guillotine s'exerce à l'intérieur des familles.
Au micro de Bernard Marcadet, c'était en 93 à New York, la voix de Louise Bourgeois. On est toujours sur RFI avec vous, Lise Parezo. Louise Bourgeois et sa conception de la guillotine familiale. Ça vous parle ?
Oui. Oui. Dans mon mot, chez moi, il y a une phrase de Louise qui c'est en anglais. You need to be aggressive for be sculpture.
Vous devez être agressif pour être un sculpteur.
Ouais. Mais bien sûr, elle me touche beaucoup parce que je pense que Louise aussi a transformé la violence qu'elle a passée dans l'objet, dans la sculpture. Et je pense que je fais ça aussi un peu.
Et puis, il y a un dialogue entre son travail et votre travail à vous, puisque dans votre installation intitulée « Série Joujou »,
oui,
vous vous êtes inspiré de ces célèbres araignées.
Oui.
Dites-nous à quoi ça ressemble, votre série Joujou.
En réalité, je vois son travail en Dia Beacon, New York. Et ça a beaucoup me touché parce qu'il y a cette force d'araignée. Elle est super belle, en même temps super dangereuse. Mais les miniatures, les joujoux, j'ai fait parce que j'habite un appartement de 20 mètres carrés et j'ai commencé à diminuer l'échelle de mon travail. Je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup de sens, mais c'est ça qui me fait penser pourquoi pas je vais faire des petites choses parce que je n'ai pas plus d'espace de faire des grandes sculptures.
Donc cette série joujoux, c'est des araignées miniatures?
Ce n'est pas juste les araignées. Tous les travaux que j'ai déjà fait, j'ai fait en miniature. Et c'est comme des joujoux, petits joujoux dangereux parce qu'ils sont coupants aussi.
Est-ce qu'il y a une dimension de sadisme dans votre travail? De vouloir se faire mal et ça fait du bien de se faire mal.
Un peu. Je sais pas si je peux dire ce que j'ai pensé, mais un peu, oui.
Le sourire en dit long.
Je sais pas si je peux dire.
Si, vous, bien sûr que vous pouvez dire. Vous avez fait tout ce trajet de Rio de Janeiro à Paris pour pouvoir dire.
Mais j'ai déjà fait un peu aussi des BDSM dans ma vie privée et ça me fait penser aussi dans l'objet avec un lien de plaisir et de douleur et ça a aussi influencé mon travail.
C'est un peu secret quand même.
Oui, voilà, c'est ça que je...
Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous avez sorti les griffes, Lise Parezo, avec donc cette installation Tempête Magique qui se trouve à l'entrée de la Grande Halle de la Villette une question au cœur de cette exposition. Un artiste né au troisième millénaire, est-ce qu'il envisage autrement son rôle dans la société? Je crois qu'on a eu quelques éléments de réponse en vous écoutant en sol majeur. Mais la réponse, la vraie, elle est dans vos pas. Vous nous montrez cette installation?
Oui, bien sûr.
On y va.
Si Lise, vous avez un petit commentaire sur cette expo, 100% expo, là.
Je pense que cette exposition, c'est super important pour les jeunes diplômés parce que c'est une expérience incroyable. Il y a une super équipe pour faire des projets, il y a un architecte. Et je pense que j'ai beaucoup appris parce que c'est ma première installation publique. Et il y a beaucoup de défis techniques comme les mesures de sécurité, etc. Et voilà.
Il y a des mesures de sécurité?
Oui, bien sûr, parce que mon travail il est dangereux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de motos, parce que sinon, avec les vents, il peut sortir. Autour des mobiliers, ils sont 3 mètres, 50 mètres du sol.
Alors, nous voilà sur le tapis rose qui accueille cette exposition. Ah, on nous fait signe qu'il faut passer par là. Tapis rose, disais-je, qui accueille cette exposition. Tempête magique, en fait, c'est vous qui ouvrez l'exposition.
Oui, c'est ça. Tempête magique, c'est une installation avec 10 mobiliers, 3 en aluminium, de 3,50 m.
Suspendu au plafond.
Suspendu par chaîne et câble d'acier. Et c'est un inox miroir. Ils sont des spirales avec des formes tachantes.
Des formes coupantes.
Les mobiliers, ils tournent avec la force du vent.
Ah.
Et c'est pour ça que ça s'appelle tempête magique, parce que c'est le vent qui fait tourner cette structure qu'il y a en beauté violon. Parce qu'en même temps que c'est un métal qui peut séduire, et la forme spirale aussi qui peut hypnotiser, elle a aussi une touche de violence.
Et quelles sont les normes de sécurité? Puisqu'effectivement, ce sont des œuvres qui sont dangereuses pour le public. Hein?
En Beaux-Arts de Paris, j'ai montré dans mon diplôme les mobiliers à côté de l'écor. Mais ici, comme c'est un espace public, chaque mobilier était élevé 3,50 m du sol, pour ne pas avoir de risque de couper le public. Et aussi, il y a les vents, que c'est bien pour tourner, mais en même temps pour être dangereux. Alors, chaque mobilier, il y a un double accrochage, un câble d'acier et aussi une chaîne qui connecte avec les plafonds.
Et je remarque effectivement que sur le parvis de la Grande Halle, l'installation, les spirales se reflètent sur les pavés. Il y a des formes rouges.
Oui. Maintenant, c'est rouge parce qu'il y a de la lumière, mais dans la nuit, c'est rose. J'ai recherché beaucoup les groupes graves qui font des travaux optiques, cinétiques dans Paris, les années 60. Et c'est ça, toujours j'utilise la lumière qui occupe l'espace. La lumière, elle occupe les plafonds. Quand la touche l'immobilier, elle reflète dans les plafonds. Et dans le sol, il y a un nombre qui c'est la forme de chaque sculpture. Et chaque sculpture, il y a un dessin différent.
Quand vous en aurez fini avec la violence, quand toute la violence que votre corps a encaissée sera redistribuée, qu'est-ce qu'il se passera après pour l'artiste que vous êtes?
Je pense que ça, c'est ma thérapie. Et ça me donne la sanité mentale parce que j'ai pu créer un débat souvent encore dans la société à partir de la sculpture. Et même les processus, c'est intéressant de penser. Ça, c'est pour ça que j'ai fait mon mémoire, que c'est thérapie narrative. Toujours penser comme cette redistribution, c'est un processus pour ma santé mentale.
Je vois. Merci, Lise Parezo. Et bonne continuation.
Merci beaucoup.
À pas de loup, on va quitter le péristyle de la grande halle de la Villette. La tempête magique de Lise Parezo encore dans les yeux. Aïe, ça fait mal. Un en sol majeur à retrouver comme toutes nos émissions sur RFI, sur votre application Pure Radio. Théo Raison, Yasmine Chouaki, on vous retrouve samedi prochain avec Gurvan Kristanajaja. On aura un orteil en Indonésie. Dans un instant, votre journal, suivi de tous les cinémas du monde. Again, the sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Gold in the sky, and in my blue eyes, you know it feels unfair. There is magic everywhere. Look at me stand. I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. I'm not so alone.